a été soit directement, soit par la génération de ses parents, touché par la terreur. Et très vite, la bourgeoisie, même la bourgeoisie libérale, même Victor Hugo, même les écrivains, vont se trouver un refuge dans la personnalité de Louis-Philippe, c'est-à-dire un roi constitutionnel, un roi libéral, on dirait un roi de gauche, mais un roi quand même.
Alors justement, vous parlez des écrivains. L'importance des écrivains, c'est Stendhal, mais aussi d'autres, Hugo, on le citait, c'est Dumas également. C'est toute cette période littéraire qui est foisonnante et qui puise complètement je dirais, son inspiration dans la vie quotidienne.
Non, mais cette révolution est la révolution du romantisme. Est-ce qu'on imagine, hein, je le dis à vos éditeurs, en cette fin de juillet 1830, je dis bien en cette fin, c'est-à-dire entre le 25 juillet et le 30 juillet, Stendhal est en train de terminer Le Rouge et le Noir et Victor Hugo commence Notre-Dame de Paris. Est-ce que il y a eu un moment dans notre culture et notre littérature où autant de génies se sont retrouvés à écrire côte à côte? Et il n'y a pas que. Dans cette révolution, vous voyez arriver Chateaubriand, vous avez Vigny, vous avez Dumas, donc tous ces grands noms du 19e siècle, qui à l'époque sont, à part Chateaubriand, qui est déjà très célèbre, mais sont de jeunes auteurs. Et ce qui était très intéressant, c'était de les voir vivre cette révolution, à laquelle, en réalité, il faut être très franc, ils ne comprennent rien. Stendhal, par exemple, est un libéral. Stendhal déteste les Bourbons. Stendhal, il devrait être enchanté par cette révolution. Eh bien, il la méprise. Il la méprise pourquoi? D'abord parce qu'il est pris dans son livre, et que lui, ce qui l'intéresse, comme tout écrivain, c'est d'abord de finir son livre et pas de faire la révolution. Et puis disons-le, qu'il rencontre quelques problèmes de panne sexuelle avec sa maîtresse italienne. Et ça l'obsède beaucoup plus que la révolution.
Alors quel rôle Talleyrand a joué? On le sent, il est présent, il est intriguant, comment il se situe?
Talleyrand a un rôle essentiel. Talleyrand, c'est l'homme qui a résisté à tout le régime. C'est le grand homme politique du début du 19e siècle. C'est l'homme qui, a lâchant Napoléon, a laissé Napoléon s'effondrer. C'est l'homme qui a permis le congrès de Vienne. Eh bien, il va, comme à son habitude, tirer toutes les ficelles. Il est rue Saint-Florentin dans son hôtel. De là, il voit les Tuileries évacuées par l'armée royale. Et il se tourne avec ce flegmatisme de Talleyrand. Il se tourne vers son secrétaire, auquel il est en train de dicter son courrier. Il dit « Monsieur, vous noterez qu'aujourd'hui, à 12h05, le roi de France a cessé de régner. » Donc, il a, voilà. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire son rôle de diplomate. Et comme il y a tout le corps diplomatique qui est présent, parce que Charles X a oublié de convoquer à Saint-Cloud les ambassadeurs, et il va obtenir de l'ambassadeur d'Angleterre et de l'ambassadeur de Russie que les puissances européennes n'interviennent pas en France si jamais il arrive à placer Louis-Philippe sur le trône.
Merci Camille Pascal. Donc ce livre, je rappelle le titre, L'été des quatre rois, c'est aux éditions Plomb, livre couronné d'ailleurs par le Grand Prix de l'Académie française.
Ah oui, ça j'avoue que ça a été un moment, d'ailleurs je vais bientôt aller le recevoir sous la coupole. Le Grand Prix du roman de l'Académie française est un peu moins connu du grand public que le Prix Goncourt, même s'ils sont nés exactement au même moment. Mais quand vous regardez la liste des prédécesseurs et que vous y retrouvez Mauriac, Saint-Exupéry, Bernanos, vous ne pouvez qu'être impressionné.
Merci à vous.
C'est moi qui vous remercie.
Pour dédramatiser.
Jean-Emmanuel Deluxe, et nous allons plonger dans les années 60, les 60s, avec Les Filles de la Pop, c'est aux éditions Maison Cocorico. Alors Les Filles de la Pop, les plus célèbres, Sylvie Vartan, Sheila, Françoise Hardy, France Gall, mais il y en a d'autres aussi dans ce livre, peut-être un peu oubliés ou qui ont eu des succès, de grands succès dans les années 60, mais dont la carrière s'est arrêtée plus rapidement.
Oui, tout à fait. Il y a par exemple, il y a Dany qui, elle, continue, mais il y a eu des périodes où elle est un peu partie des projecteurs, mais qui est revenue aussi. Annie Philippe, qui est revenue avec une biographie, et puis d'autres qu'on a par contre qu'on avait oublié, mais dont les chansons ont marqué. Par exemple, Gillian Hills, dont le nom a peut-être été oublié, mais qui est revenue par le biais des Américains dans la série Mad Men, où il y a eu une reprise de sa chanson, où d'ailleurs beaucoup de gens pensaient que c'était un original parce que avaient oublié la version des années 60.
Alors c'est vrai qu'on se souvient de ces années 60 avec celles ou ceux qu'on appelait les idoles. Ce sont eux, et ce sont plus exactement elles qui sont dans ce livre.
Oui, parce que comme dit Lio dans la préface, c'est vrai que sans filles, la pop aurait été beaucoup moins colorée, vivante, que ce soit les fans des groupes qui criaient pendant les concerts des Beatles ou de Johnny Hallyday. Et puis ensuite, évidemment, bah, toutes les chanteuses pop qui ont beaucoup marqué, parce qu'il faut se rappeler par exemple que la première fois que les Beatles sont venus en France, la tête d'affiche était Sylvie Vartan et pas les Beatles. Après, ça a changé évidemment, mais il y avait vraiment c'était des icônes, et elles étaient beaucoup suivies aussi pour la mode prescriptrice. C'était toute une nouvelle génération qui découvrait un peu une liberté, et les jeunes filles pour la première fois n'essayaient pas de ressembler à leur mère, mais d'avoir un peu leur propre identité.
Une forme de révolution culturelle, puisque c'était ces années 60, ont vraiment marqué un nouveau pas dans la société, et notamment chez les femmes qui ont eu une forme d'émancipation extraordinaire.
Oui, en fait, ça préfigure un peu mai 68, les mouvements féministes, parce qu'il y a les débuts de la contraception. On parle plus ouvertement de sexualité, même si au début c'est toujours un peu naïf et bon enfant, mais il y a vraiment une... Et puis c'est les premières fois où des femmes artistes commencent à se... comme Françoise Hardy par exemple, qui écrit ses propres chansons. Donc on se dit, ah bah oui, une femme peut aussi écrire et interpréter ses chansons. Donc il y a même si encore les producteurs sont un peu derrière, les femmes commencent vraiment à s'émanciper. Et du coup, les jeunes filles qui les suivent dans les magazines et à la radio, à la télévision aussi.
Alors qu'est-ce qui a fait, aussi bien pour les hommes que pour les femmes d'ailleurs, que pour les filles, le fait de cette longévité pour certaines et puis une carrière plus éphémère pour les autres? Est-ce que c'était un concours de circonstances, ou est-ce que pour les filles c'était plus difficile parce que la condition de la femme n'était pas forcément d'être une artiste, hein, dans l'esprit de l'époque?
Ouais, oui, notamment si on lit la biographie d'Annie Philippe qui est sortie il y a quelques temps au Cherche Midi, on s'aperçoit que les producteurs derrière, parfois elle, c'était en plus elle avait vraiment des producteurs dont certains appartenaient au milieu, elle l'a su ensuite. Et donc c'était un peu compliqué. Et souvent aussi, on prenait une fille qu'on trouvait jolie et on passait à une autre. Et puis après 68, il y a eu toute une période où on a voulu changer un peu de style, et c'était très difficile pour certaines de s'accrocher. Alors certaines ont continué, d'autres effectivement n'ont vécu que le temps d'un ou deux 40 ceintures, mais aujourd'hui on les redécouvre. C'est ça qui est étonnant, parce que les Anglo-Saxons sont vraiment fans de ça.